On va parler de Pourim ce soir. Et on va commencer par cette Gemara très très fameuse que tout le monde connaît, je crois, plus ou moins, où la Gemara dit comme ça, que quand on a reçu la Torah, il y avait écrit « Vichatsfu betartitav » le peuple d'Israël était sous la montagne. Que Dieu a pris la montagne et l'a mise sur la tête du peuple d'Israël. Et il leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien. Sinon, ici sera votre mort. Ici sera votre mort. La Torah a été donnée comme ça. La Torah a été donnée dans une violence où c'est ou la Torah ou la mort. Et la Gemara continue. Et la Gemara dit, Amar Avraham Bar Yaakov, Mikan Moda Rabba Leoraïsa. C'est un grand problème en soi, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais de là, à première vue, il y a un grand prétexte. Le peuple juif peut dire qu'il n'est pas chayav de faire les mitzvot dans la mesure où il a été forcé d'accepter les mitzvot. C'est un gros problème en soi. Et, à ça, et comme réponse, la Gemara, elle dit, Amar Rava Afal Piken, même comme ça, Adur, Adur Kiblo Abiyamachash Verosh. Dertiv Kimu Vekiblu, Ayehudim Kimu Mashé Kiblu Gva. Que à Pourim, ils ont accepté la Torah volontairement, avec amour, et à première vue, le pshat pashut de la Gemara, c'est une réponse à la question. La question était de dire, comment est-ce que, si la Torah est forcée, comment ça se fait que le peuple juif a pu être rendu responsable de ne pas faire les mitzvot, puisqu'ils n'ont pas accepté la Torah de plein gré, puisque Dieu a donné la Torah de façon forcée, il a dit, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien ici sera votre tombeau, et la Gemara répond, c'est pas grave, dans la mesure où à Pourim, ils ont accepté la Torah en pleine conscience et en pleine volonté. Bon, la question qu'on va effleurer ce soir, que tous les mefarchim posent, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le don de la Torah et Pourim ? Il y a eu des siècles où le peuple juif, on voit où il a été puni, alors qu'il n'y avait pas eu encore cette acceptation volontaire de la Torah. Il y a beaucoup de réponses à ça. La réponse la plus simple, c'est de dire que Pourim a révélé un accord fondamental du peuple juif. Même s'il n'avait pas été exprimé au Mont Sinaï, il y a eu un accord fondamental du peuple juif. Mais la grande question que pose de Maharal, c'est de dire pourquoi est-ce que la Torah est donnée comme ça? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est acceptée à Pourim en pleine conscience, avec volonté? Alors le Maharal dit comme ça, il amène un Midrash qui dit, je vous lis le Midrash, « Bishvil kach haya kofer lehem arkegit. Dieu a mis la montagne sur la tête du peuple juif, kedei sheyu anusim, pour que le peuple juif soit anusim forcé. » Forcé de recevoir la Torah comme violé. Anusim, le vrai mot, c'est violé. Shaya ma'anes otam al kabbalat ha Torah. Et dans le viol qui s'est passé dans le don de la Torah, kiven shayu Israël anusim, ou me'ames k'tiv lo yuchal lishlocha kol yamav. Veken lo yifached Israël minashem idbara leolam. Le Midrash fait une jonction entre le pshat, la halacha, et le Midrash en disant que, Entrez. Bienvenue, rentrez. Il y a d'autres personnes dehors ou... Alors dites-leur de rentrer parce qu'on ne va pas reprendre. Bien. Donc vous savez qu'il y a une halakha, que quand quelqu'un, chas v'shalom, viole une femme, il est obligé de se marier avec elle si la femme le désire. Et ce violeur qui viole la femme n'a jamais le droit de divorcer cette femme. Il doit garder cette femme éternellement tant qu'elle est le désir. C'est un renversement. C'est la femme là qui peut exiger le divorce quand elle veut. Le mari est condamné à rester avec cette femme toute sa vie. Or, le Midrash nous dit que si Dieu a donné la Torah de cette façon, si Dieu a donné la Torah au peuple juif comme dans un viol, c'est pour rendre le lien entre Am Israël et Dieu indélébile, indestructible, par le fait même que Dieu, Kébiéchol, bien entendu, est considéré ici comme un homme qui aurait violé une femme, qu'il aurait par la suite épousée et qu'il n'aurait jamais le droit de défaire le lien du mariage. Donc c'est ce que dit le Midrash. Le Midrash dit qu'une des raisons pour lesquelles la Torah a été donnée de cette façon-là, c'est pour rendre le lien entre le peuple juif et Dieu indestructible. Puisque Dieu lui-même, maintenant, est forcé de respecter le mariage. C'est-à-dire que même si Am Israël chas v'shalom renonce à toutes les mitzvot, ne fait pas toutes les mitzvot, Am Israël, Dieu est obligé de rester le mari de Am Israël. C'est ce que dit le Midrash. Et le Maharal de Prague continue, Et il dit, Vatam ou Kivan Shaya Maanes Otam Imken, ou Aya Machiach Otam al Chibur Aze. Il dit donc, cette violence, dans la façon, la violence avec laquelle la Torah a été donnée, ça fait un lien entre le peuple juif et Amisraël qui fait que ça ne peut jamais être enlevé. Et continue le Maharal. Et il dit, Aval, Ikar Asiba, Shaya Mochiach Otam, ou Atam Asher Amru, ki a Torah Baolam I Echachis. La Torah I Echachit, que la Torah elle est nécessaire. Donc le Maharal rajoute en une phrase, une autre raison que le Midrash ne dit pas, c'est de dire que si la Torah est donnée de cette façon-là, c'est pour montrer le caractère absolument nécessaire de la Torah. Et il continue le Maharal de Prague en disant la chose suivante, je vous lis un petit peu le Maharal, ce qu'il dit, il dit comme ça, il dit, il ramène Ezechiel. Après la destruction du premier temple, les Juifs ont été voir le prophète Ezechiel. Et ils lui ont dit, une fois qu'un homme a divorcé sa femme, c'est fini, il n'y a plus aucun rapport entre les deux. D'après la halakha, une fois qu'un homme divorce une femme, toutes les obligations entre homme et femme s'annulent, il n'y a plus aucun, il n'y a pas d'un velout, il n'y a pas d'obligation financière, il n'y a aucune obligation. Donc, viennent voir les Juifs après la destruction du premier temple et ils disent, puisque Dieu nous a rejetés, puisque Dieu ne veut pas de nous, ça veut dire qu'on est divorcé. Donc si on est divorcé, on est libre de devenir comme n'importe quel peuple, on est libre d'abandonner toutes les mitzvot. Et Ezechiel leur répond la chose suivante. Chai, de leur nom de Dieu. Et il leur dit comme ça. Il dit, Al ole al ruchechem, ne pensez pas, chetia asher atem omrim, que ce que vous dites, niye ke goyim be mishparot aratzot, qu'on soit comme les autres peuples. Les charet etz ve'evet, de servir du bois et de la pierre, de faire de l'idolâtrie. Chai anineum hachem, je jure, dit Dieu, Elohim, imlo beyat chazaka o bezroa netoui o bechem ashfucha, imloch alechem. Si je ne serai pas à votre roi, malgré vous, avec colère, avec force, je vous forcerai à être mes sujets. Et le Maharal continue en disant qu'il y a deux formes de relation entre Dieu et Israël, une qui s'appelle Be'iglat Panim, en amour, et un qui s'appelle Be'ester Panim, quelque chose qui est caché, mais la relation est toujours là. Une relation qui est toujours là, même si la manifestation de cette relation n'existe pas. Et ça, c'est un des grands secrets du lien d'Israël avec Dieu, avec Hachem, c'est que sa relation fondamentale entre le peuple juif et Dieu ne dépend pas de la manifestation de cette relation. Elle est tellement essentielle que même si à première vue il n'y a rien, absolument rien, la relation est là. Elle est là. Elle est là parce qu'elle est inconditionnelle et c'est pour ça que la Torah est donnée comme ça. La Torah est donnée comme ça, bien entendu, le Maharal continue à l'expliquer parce que, et là on a fait une fois un cours dessus, et Lévinas parle beaucoup de ça, c'est sa fameuse lecture talmudique, mais les Mefarchim vont parler encore plus loin. Et ils disent que, bien entendu, la Torah ne pouvait pas être l'objet d'un choix. Fondamentalement, elle ne pouvait pas être l'objet d'un choix, parce que si elle était l'objet d'un choix, ça voudrait dire que le choix en amont, la possibilité de choisir, est plus fondamentale que la Torah. Qu'on peut choisir le bien, qu'on peut choisir la Torah, qu'on peut choisir le sens de sa vie. Et ça voudrait dire donc que le choix, que l'intellect, que le raisonnement est plus fondamental, plus en amont, plus primordial que la Torah elle-même. Or, la Torah est ce qui fait, la Torah est ce qui permet le fait même de vivre. C'est ça que nous dit le Maharal. Le Maharal nous dit c'est la Torah elle-même, le fait même qu'il y a Torah, qui permet le fait de vivre, et le fait même de penser, et le fait même de choisir. Donc il y a un renversement total. Ce n'est pas comme on pourrait le croire, qu'un homme avant tout existe, et à partir de cette existence, il réfléchit, à partir de cette réflexion, il arrive à la conclusion que la Torah est la vérité. Ça, c'est la démarche d'Abraham Avinu avant le don de la Torah. C'est la démarche universelle, si vous préférez. C'est exactement le contraire. On nous dit ici quelque chose d'assez vertigineux, c'est que c'est parce qu'il y a événement de transcendance, c'est parce qu'il y a événement de révélation, qu'il y a la possibilité même du penser. La possibilité même du penser est conditionnée par le fait même qu'il y a Trom, qu'il y a un choc avec la transcendance. C'est parce que l'homme a une relation avec Dieu qu'il peut penser. C'est-à-dire que c'est un renversement total. C'est pas... Le Maharal nous apprend, si vous préférez, qu'il serait naïf de croire que la pensée est naturelle. La pensée n'est pas naturelle. La pensée est un événement miraculeux. La faculté même de choisir entre le bien et le mal, la faculté même de réfléchir entre deux possibilités, n'est possible que parce que l'homme en amont est confronté en essence au bien et au mal, et donc à Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas l'éthique, la morale et la spiritualité qui est une conséquence de la pensée, c'est la pensée qui est une conséquence de l'éthique. Si on veut le dire de façon plus grossière, plus à lève-bête, c'est de dire que l'éthique, l'essence même de la spiritualité, l'essence même de la transcendance, l'essence même de la révélation, c'est le choix. C'est tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Quand Dieu se révèle, c'est ça qui est absolument extraordinaire, la plus grande révélation qu'il n'y a jamais eu dans tous les temps, qui est Dieu lui-même, Bervodo Beatzmo, qui se révèle au Harsinaï, à tout un peuple, à 3 millions de personnes. Une révélation absolument extraordinaire. On aurait pu s'imaginer, dans les autres religions, qu'on nous aura enseigné des secrets kabbalistiques très profonds. Que dit cette révélation? Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas d'adultère. Tu respecteras ton père et ta mère. Des impératifs éthiques. Comme si cet impératif éthique était le summum même de la spiritualité. Dans le sens où, pas parce que, effectivement, être moral, être éthique, c'est bien, mais parce que se joue même dans le j'ai le droit ou je n'ai pas le droit, l'essence même de l'expérience avec Dieu. Dieu, d'emblée, me met dans une situation où je suis confronté à ma liberté, au bien et au mal. Et c'est cette situation, c'est ce choc avec la transcendance. C'est ce lien profond avec la transcendance qui me permet après de penser. Mais fondamentalement, si vous préférez, d'une façon phénoménologique, dans la structure profonde de l'esprit, dans la structure profonde de la subjectivité, ce qui me permet la liberté de réfléchir, c'est qu'en amont, je suis déjà avant tout exposé à la liberté, au bien et au mal. C'est ça qui fait qu'il y a possibilité de penser. Et si un ordinateur, un animal, d'autres choses qui n'ont pas cette dimension ne pensent pas, n'ont pas d'autonomie de pensée, c'est parce que, en essence, elles ne sont pas confrontées à l'éthique. Et donc elles ne pourront jamais penser. On pourra faire des milliers d'études pour essayer de faire penser à un ordinateur, il ne pensera jamais. Pas parce qu'il lui manque des catégories cérébrales, parce qu'il n'a pas cette autonomie du sujet face à la liberté et à la responsabilité. Donc ce qui fonde la pensée elle-même, ce qui fonde la pensée, le choix lui-même, c'est la Torah. Donc c'est pour ça que c'est absurde, on ne peut pas choisir la Torah, puisque la Torah est ce qui fait et ce qui permet le choix d'exister. Et c'est en ce sens-là que le Maharal nous dit que c'est echéach, que c'est absolument nécessaire. Mais là, il y a une très grosse kushia. Il y a une très grosse kushia qui est, on a vu donc que la Torah ne peut être donnée que comme ça. La Torah en essence ne peut être donnée que forcée. Puisque la Torah est absolument nécessaire, non seulement comme condition métaphysique que le monde a été créé pour la Torah, mais même, comme on l'a vu, dans la structure même de la personne, de la subjectivité. Or, comment est-il possible que la Gemara continue en nous disant « Afal Piken, ils ont reçu la Torah à Purim, avec joie. Ils ont reçu la Torah avec joie à Purim. » Si on prend au sérieux les paroles du Mara et les paroles des commentateurs, que la Torah en essence doit être un reçu forcé, il est impossible que la Torah ait accepté en volonté à Purim. Or, l'Agma et les commentateurs nous disent que la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah de Purim. C'est la Torah qu'on a acceptée, Beratzon, comme nous dit Rashi, Beravatanes, avec l'amour du miracle, avec le retrait de la divinité, le fait même qu'à Esther Panim, on a accepté librement la Torah. Mais comment est-ce qu'il est possible d'avoir une Torah qui soit acceptée librement, alors qu'on vient de définir que la Torah en essence doit être forcée? Ça, c'est la grosse kushia. C'est la grosse difficulté. Comment? Or, Purim, c'est ça. Purim, c'est l'acceptation de la Torah dans une dimension de liberté. Or, on vient de dire que c'est impossible. Qu'en essence, la Torah doit être forcée. Que ce n'est pas juste un accident de l'histoire. Que la Torah n'a pas été donnée forcée parce que Dieu avait peur qu'on refuse ou des choses comme ça. C'est parce qu'en essence, la Torah doit être donnée comme ça. Parce que la Torah, en essence, est nécessaire, comme nous dit le Maharal. Or, on voit qu'à Purim, Afal Piken, Adruv et Kiblou, Bechador, Achashverosh. Qu'à ce moment-là, il a accepté les Simcha au Beratzon. Comment cette acceptation de Ratzon peut aller avec le fait même que la Torah doit être forcée? Et donc ici, on est obligé de dire, et c'est ce que disent les commentateurs, qu'en vérité, la volonté elle-même, la volonté même de vivre, la volonté même d'exister, elle implique la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté même d'exister. Il n'y a pas de volonté d'exister, de vivre, qui ne s'accompagne pas d'une volonté de justifier cette vie, cette existence. Même chez les peuples, il n'y a pas d'existence qui manifeste son pouvoir d'existence sans la volonté fondamentale de donner un sens à cette existence, de justifier cette existence, de donner cette existence la notion qui lui donne droit de vivre, qui donne sens à cette existence. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire que ce qui s'est révélé à Purim, le omek, la profondeur de Purim, c'est que profondément le peuple juif a compris que son âme, que son essence, en soi, c'était de faire la Torah. C'était la volonté de Dieu. Qu'il y avait une adéquation absolue entre mon intrigue personnelle, le pourquoi je suis là, et le reçu de cette Torah. Si vous préférez au Mont Sinaï, ce qui s'est élaboré, c'est que la volonté de Dieu s'est révélée, qui a donné naissance à la volonté, et que pour lui, c'est le contraire. C'est pour ça qu'il y a un renversement. C'est cette, à partir de ta volonté d'existence elle-même, à partir de la vie elle-même, à partir de l'expérience de la vie et de l'existence elle-même, dans la gestuelle du vivre, dans le geste même du vivre, je rencontre l'obligation de la Torah. Et que c'est une chose et même chose. C'est ça qu'ils ont compris à Purim. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont accepté, mais Simcha. C'est la notion même de Simcha. La notion même de Simcha, de joie, c'est de savoir que ce que je vis, c'est ma vie. Que ce que je vis, c'est ma vie. Or, avant Purim, ils ne pouvaient pas accepter la Torah avec Simcha parce que la Torah était considérée comme une transcendance extérieure qui m'était imposée. À Purim, je conçois cette transcendance extérieure qui m'est imposée comme le sens profond de mon être. Comme, pas simplement le sens profond de mon être, mais comme la manifestation la plus intime de ma véritable volonté. Et donc, à Har Sinaï, si vous préférez, c'est la volonté divine universelle qui m'éveille à ma volonté. Et à Purim, c'est à partir de ma volonté que je rejoins la volonté de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut boire à Purim, manger à Purim. Parce que c'est ça Purim, tout Purim c'est ça. Tout Purim, c'est à partir de l'expérience jouissive, sensuelle, du manger, du boire, du rire, de la vie, du contact avec l'autre, comment à l'intérieur même de cet événement même d'exister, je décèle déjà le sens de ce que je dois faire, le sens profond de ce que je dois faire, le sens de la volonté divine à l'intérieur de ma vie physique, de ma vie réelle, de ma vie concrète, de l'expérience concrète de la vie. C'est pour ça que Purim est comparé à la Torah Shebaal Peh. Parce que la Torah Shebaal Peh, c'est le désir. C'est toujours le désir. La Torah Shebaal Peh, c'est le désir de comprendre la Torah. C'est le désir personnel de comprendre la Torah. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plusieurs intervenants dans la Torah Shebaal Peh. Il y a Rabbi Akiva. Donc, quand c'était le temps de la prophétie, la parole est unique. À partir de la Torah Shebaal Peh, la parole est multiple. Parce qu'il y a une multiplicité de personnalités qui vont dire la Torah. Et c'est pour ça aussi que le Midrash nous dit que la Torah Shebaal Peh est élaborée en machloket, et que le Midrash nous dit machloket c'est cholek mavet, c'est celui qui tue, divise la mort, qui divise la mort. Pourquoi est-ce que la machloket, la Torah Shebaal Peh, est celui qui empêche la mort, qui tue la mort? C'est parce que ce qu'il meurt toujours dans l'homme, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est éphémère. Or, par la Torah Shebaal Peh, par le fait même que j'investis ma vie, mon intrigue, ma vie réelle, le sens de ma vie dans la Torah, et que quelqu'un d'autre va faire la même chose et qu'on va avoir fondamentalement une marloquette, puisque là, la marloquette, c'est l'éruption de deux grands initiés qui vont chacun écouter la parole de Dieu à partir de la singularité de leur neshama, et la singularité de chaque neshama, de chaque âme, va écouter de façon différente de la Torah par le fait même que cette écoute est différente chez chacun, et donc ça va avoir l'éruption d'une marloquette. Et la Torah nous dit, Elou, Elou, divrei Elohim Chaim, les deux sont les paroles du Dieu vivant, parce que les deux sont la Torah. Parce que la Torah est donnée aux hommes, est donnée à écouter aux hommes. Et donc cette écoute va être une écoute singulière chez chacun, mais que la somme de cette écoute, c'est la Torah. La somme de tout Amisraël, la somme des 600 000 écoutes de la Torah va être la Torah Shebaal Peh. Et c'est à partir de là que l'homme devient immortel. Il devient immortel. J'avais oublié. De la Torah Shebaal Peh, de cette Torah-là qui vient de l'homme, qui vient de moi-même, là où je deviens moi-même Torah, si vous préférez, où ma pensée, quand elle est initiée, quand elle est, c'est une vraie pensée, après des années d'études, après des années de travail d'éthique sur soi-même, où je dis une vraie parole de Torah, c'est moi qui dis une vraie parole de Torah. C'est en même temps la parole du Dieu vivant, et c'est en même temps moi qui l'a dit. C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'un Talmud Chacham, il peut mévater sur son cavote. Un roi, il ne peut pas être mévater sur son cavote. Parce que le roi, il est défini par sa fonction. Il ne peut pas enlever le fait qu'il doit inspirer la crainte chez les autres, et le respect, la malroute. Mais un Ben Torah qui veut se la jouer copain avec les autres, il a le droit. Ah, on dit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de, tu n'as pas le droit de mésalzel la Torah. Quand tu fais, non, la Gemara dit Torah d'idée. C'est sa Torah. Il en fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'assumer le respect de sa propre Torah. Il ne doit pas être mévasé, il ne doit pas arriver jusqu'à qu'on le méprise, mais ça c'est une autre halakha. Mais il n'est pas obligé, Torah d'idée, il peut être mévatel sur son cas, parce que c'est sa Torah. C'est ça qui est absolument étourdissant, absolument extraordinaire, si on comprend la portée de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'ai la possibilité, Marloket, j'ai la possibilité de diviser la mort, j'ai la possibilité de devenir moi-même la parole de la Torah. Et ça, c'est à partir, ça ne peut être vécu qu'à partir du moment où je donne sens à toutes les dimensions de ma vie. C'est mon existence qui fait Torah, c'est mon existence qui devient Torah. C'est mon existence elle-même qui devient Torah. Or, l'existence, c'est manger, boire, s'amuser, voir des gens. Et ça, ça doit s'être transformé en Torah. Un Ben Torah, il n'y a pas de... On dit que plus quelqu'un est grand, plus quelqu'un est petit, on va commencer par le contraire, plus l'espace entre obligé, enfin, chiyuv, vous avez mitzvah, avera, et l'espace neutre, au début, qui s'appelle reshut. On est obligé de mettre les tefilines, on n'a pas le droit de faire la shonara, mais obligé, au début, je peux rester toute la journée à dormir. Ça s'appelle reshut. Je ne fais pas d'avera, je ne fais pas de mitzvah. Plus quelqu'un est grand, plus cet espace entre les deux s'amoindrit. Au point où un grand tzaddik, il n'y a plus de reshut. Tout ce qu'il fait devient au mitzvah ou avera. Il n'y a pas un geste qui n'est pas une mitzvah de Kiddush Hashem et qui n'est pas une avéra. Tout est sanctifié. Parce que justement, lui, il est à niveau, c'est lui-même et Torah. Donc si lui-même est Torah, tout se pose en termes de mitzvah ou d'avéra. Sa vie elle-même est traduite par mitzvah ou avéra. Et là, on va comprendre quelque chose de fondamental. Je crois qu'on avait parlé la dernière fois un peu de ça. C'est grâce à Purim qu'on va aussi pouvoir, et je pense que la plupart des gens ont besoin de ça, arriver à faire ce qu'on appelle un tikkun. Hier, on avait parlé de ça la semaine, je crois, il y a deux ou trois semaines. C'est le Ramban dit la chose suivante. Il dit une chose extraordinaire. Il dit la Torah, quand elle est donnée, pourquoi elle a été donnée par Dieu au Mont Sinaï par 600, devant 3 millions de personnes et qu'elle n'a pas été donnée comme toutes les autres religions, par un prophète, par ce que vous voulez, par un prophète, etc., par un envoyé? C'est parce que la Torah, comme ça, elle ne peut jamais être remise en question. Elle est absolument vraie. Et on peut, plus personne ne peut dire que ce n'est pas vrai. C'est ce que dit le Ramban. Et il continue, il dit, le Ramban dit, il faut que ça se transmette de père en fils. Transmette de père en fils. Et un fils ne mentira pas à son père. Un père ne mentira pas à son fils. C'est ce que dit le Ramban. À première vue, il y a des grosses questions sur ce Ramban. Il y a deux questions fondamentales. Il y a une première question qui est, d'abord, ça c'est vrai pour les gens qui étaient au Mont Sinaï. Les générations après, eux, elles n'ont pas vu le Mont Sinaï. Donc pourquoi est-ce que, en quoi est-ce que pour elles, la Torah ne peut pas être niée? Ceux qui étaient au Mont Sinaï, la Torah ne peut pas être niée, ils l'ont vu. Mais les générations après, ça rentre dans un système de preuves. On va dire oui, c'est impossible que des gens, comme font les gens, c'est impossible que ça n'a pas eu lieu, parce que comment est-ce que la première génération n'aurait pu leur baratiner puisqu'ils étaient là-bas, etc., etc. Mais c'est des preuves tout ça. C'est pas du tout ce que le Rambam dit pas ça. Il dit que quand la Torah a été donnée comme ça, pour les Olamba et jusqu'à que le Mashiach revienne, la Torah ne peut pas être niée. Très bizarre. Elle ne peut pas être niée pour la génération qui était au Sinaï. Deuxièmement, si c'est vrai, si la Torah doit être transmise, comme ça dit le Ramban, à un niveau de clarté qui ne supporte pas le questionnement, la remise en question, comment ça se fait qu'il y a tellement de kofrim et d'apikorsim? Comment ça se fait qu'il y a tellement de gens qui nient la Torah? Comment c'est possible? Et la réponse qu'il faut donner, c'est comme ça. C'est que quand la Torah a été donnée, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est une chose fondamentale. Elle n'a pas... Ce qu'Am Israël a vu au Mont Sinaï, ce n'est pas un spectacle. Ils n'ont pas vu des révélations, des voix, Dieu se révélant sur le monde. Même si c'est le spectacle le plus beau du monde, ce n'est pas un spectacle. C'est la révélation de l'essence même de la vérité qu'ils ont vue. Mais plus que cela, c'est que la Torah a été donnée pour être transmise. C'est pour ça qu'on dit Moshe Kibel Torah Mi'ar Sinai. Pourquoi on dit Mi'ar Sinai? On aurait dû dire Mi'ashem. Vemasroa le Yoshua. Il a donné à Yoshua. Pourquoi Mi'ar Sinai? C'est parce qu'on nous dit qu'en vérité, il faut donner la Torah. La Torah se transmet, si vous préférez, avec le Mont Sinai. toute Torah, toute étude de la Torah qui ne reconduirait pas à l'expérience du Mont Sinaï n'est pas l'étude de la Torah. Ça, il faut bien le comprendre. Toute étude de la Torah, comme me disait quelqu'un avant, des gens qui étudient à l'université, qui n'étudient pas la Torah kenetinata, qui n'étudient pas la Torah comme elle a été donnée, qui étudient la Torah comme avec un rapport à la Torah au-dessus de savants, à savoir quoi, ils ont même pas un shemet de Torah, ils ont rien. Parce que la Torah, elle est kenetinata, c'est une halakha. La Torah doit être donnée, étudiée comme elle a été donnée. Comme elle a été donnée avec crainte, il faut qu'elle soit étudiée avec crainte. Comme elle a été donnée avec grandeur, elle doit être étudiée avec grandeur. Etc., etc. Quand elle a été donnée gratuitement, elle n'a pas le droit de prendre d'argent pour enseigner la Torah. Etc., etc. La Torah a été donnée d'une certaine façon, elle doit être étudiée d'une certaine façon. Toutes les halakhot de l'étude de la Torah, on les apprend du don de la Torah. Pourquoi? Parce que le don de la Torah, c'est pas simplement un moment historique. Il y a eu un moment donné dans l'histoire, le peuple juif a reçu la Torah. Et après, on a raconté cette histoire de père en fils. C'est l'essence même de la Torah d'être donnée pour être transmise, c'est-à-dire que la Torah elle-même possède ce pouvoir de reconduire le mont Sinaï à chaque génération. Et que si on fait ça, effectivement, c'est indiscutable. La Torah est là. Et pourquoi c'est indiscutable? C'est parce que le degré... On ne parle pas ici d'un système de preuves. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on dit la transmission, ce n'est pas un système de preuves. C'est que l'expérience qui doit être vécue dans la Torah, c'est l'expérience de la vérité la plus intime à soi-même. Souvent, on amène ce que dit le Maharal. On dit que le Maharal nous dit que toute connaissance est toujours référentielle. Toute connaissance est toujours référentielle. Pour connaître quelque chose, il faut toujours que je fasse appel à une connaissance antérieure que j'ai. La connaissance ne marche que comme ça. Tout le monde le sait, ça, même les goïms le savent. Il n'y a pas de connaissance innée. La connaissance, par définition, est référentielle. Or, la grande question qui se pose, c'est quelle est la première connaissance? Si tout est référentiel, il faut bien un début pour commencer, que cette chaîne de référence commence. Or, le début, c'est toi-même. C'est comment tu t'apparais à toi-même. Comment tu t'apparais à toi-même, je sais que j'existe, c'est pas à partir d'un raisonnement. Je sais que j'existe, c'est à partir de le fait même d'exister se révèle à soi-même. C'est pas à partir d'un raisonnement que je sais que j'existe. Si quelqu'un venait discuter que vous n'existiez pas, vous l'envoyez balader, vous dites, il est fou. Vous n'avez pas commencé à discuter avec lui. Tu n'existes pas, tu vas dire d'accord. Tu vas dire non, tu vas pas, tu vas même pas discuter avec moi. Or, ce qui se passe au Mont Sinaï, c'est ça qui se passe. C'est que ce degré de certitude et de relation à la vérité à soi-même est révélé au niveau de la vérité, au niveau de l'essence même de la vérité. Chaque personne au Mont Sinaï a écouté la voix de Dieu dans l'évidence même, dans le niveau de l'évidence de l'évidence de sa propre existence. Et c'est ça qu'il faut faire passer dans l'étude de la Torah. Or, merveille des merveilles, ça passe de père au fils. C'est la relation fondamentale du père au fils. La relation du père au fils, c'est ça. Un enfant écoute son père en toute confiance, absolument. Il ne doute pas du père. Il ne doute jamais du père. Sauf quand il est trahi. Quand il est trahi par le père, c'est fini. Quand on est trahi par le père, on a besoin de preuves. J'ai été trahi une fois, maintenant je ne crois pas ce qu'on raconte. Il va falloir qu'on m'amène des preuves. Et Pourim, quelqu'un m'avait demandé quand on avait parlé de ça, comment on fait le tikkun de ça. Pourim, c'est pour ça, entre guillemets, juste une digression, qu'il ne faut jamais trahir ses enfants. C'est très très important de jamais trahir ses enfants, parce que quand on trahit ses enfants, on leur enlève la capacité de croire. Enfin, croire, je n'ai pas le mot croire. On leur enlève ce niveau de vérité, si vous préférez. On leur enlève ce niveau de vérité, pas chou de kamashmaou. On les tue dans leur émouna. Parce que si on trahit ses enfants, à partir de ce moment-là, les enfants ne vont plus pouvoir croire. Il va falloir un travail énorme, il va falloir ce qu'on fait dans les séminaires. Leur prouver que c'est impossible que ça soit autrement, parce que la Terre, elle est comme ça, il y a 36 000 preuves que le monde a écrit. Mais ça, ce n'est pas la vraie vérité. Même si j'arrive à la conclusion que Dieu a créé le monde à partir d'un raisonnement intellectuel, c'est bien, mais c'est rien par rapport à la émouna juive. La émouna juive, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est le monde du monde, c'est le monde de l'être. Le rapport à la vérité, c'est un rapport immédiat. Un rapport immédiat, un rapport qui ne dépend pas du raisonnement, qui est avant le raisonnement. Or, quand on trahit ses enfants, on leur enlève cette capacité-là de connecter avec ce niveau de vérité. C'est pour ça que c'est un crime impardonnable. Il faut faire très très attention à ça. Et donc, comme là, beaucoup de gens, malheureusement, et nous-mêmes, a trahi ses enfants ou est trahi par ses parents, et donc on a aujourd'hui la bonne preuve, comment on peut casser ça? Comment on peut revenir à cet état de virginité, de tmimout, comme on appelle la Torah, mais qui est la tmimout, qui est la plus haute intelligence. Comme dit le texte, qui a révélé ce secret des anges aux hommes. capacité de s'engager, parce qu'on sait que fondamentalement c'est vrai, et que tous les autres c'est du baratin. Après, si on essaie de... On peut le gagner par Pourim. À Pourim, parce que c'est par l'expérience même. C'est par l'expérience de ce qu'on a parlé avant. Par l'expérience. Quand Hillel disait « Imanika la kolkan »« Si je suis là, tout est là ». Regardez comment ils disent « Im ein »« Ani » c'est la même racine que « en » que le négation. C'est extraordinaire que quand je suis là, tout est là, la plus grande orgueil, c'est en même temps la plus grande humilité. Si je suis là vraiment, si je suis vraiment avec moi-même, tout est là, mais en même temps, la notion nucléaire égotique de moi-même a disparu. C'est pas moi qui m'affirme socialement par rapport aux autres, c'est mon moi poétique, c'est mon moi réel, c'est mon moi non entaché, non sali par la vie, qui redevient, à qui je donne la permission d'exister. Et quand je fais ça, tout est lavé, tout est là, tout est là. Ça, c'est, et à Pourim, c'est ça qu'on doit faire. Le tikkun, c'est pour ça qu'on doit boire à Pourim. C'est très dur à faire, hein. C'est la misère la plus dure à faire de l'année. C'est pour ça qu'on doit boire à Pourim, parce que la boisson doit arriver à ce niveau-là. On doit être capable de boire et arriver à ce niveau-là. Boire pour faire, on dit, Nirnasian Yotsesod, on boit le vin pour faire sortir le secret de soi-même. C'est ça qu'il faut faire sortir à Pourim. Pas le secret de son horreur, commencer à insulter, à rouler sur la table. Le secret de soi-même, de sa beauté. Le secret de sa beauté. Et c'est ça le tikkun de Pourim. Et c'est pour ça qu'on mange. Parce que c'est dans l'expérience physique, l'expérience existentielle de ma vie elle-même que se désigne déjà le signe de la divinité. C'est ça qu'il faut comprendre. On est très loin de la métaphysique. On est très très loin de la métaphysique. Dieu en haut, moi en bas, le truc. Même on est très loin des deux. Oy, libe yotsri. On est dans Pourim, un tikkun de ça. On est, il n'y a plus imanikan akolkan, c'est ça pour lui. Si je suis là avec la boisson, Élie, tu sais le faire, tu vas boire de grands merlots, tu vas vraiment boire beaucoup. Et le vrai Élie, qu'on voit très souvent, va apparaître. Et si ça apparaît vraiment, le secret que ça apparaît vraiment, c'est que c'est immensément poétique. Ça veut dire que moi, c'est plus moi avec mon petit moi crispé autour de moi-même et de la référence de l'image, comment est-ce qu'on me regarde, comment est-ce que je vais, est-ce que je suis conforme à l'image de papa et de maman et de la société, etc., etc. C'est le vrai moi. Le vrai moi qui a tout, qui comporte l'écho de l'univers entier, mais l'écho de l'univers entier dans sa plus grande sublimité. Et c'est ce qu'on doit faire demain, pas après-demain. C'est ce qu'on doit faire en buvant et en mangeant. Oui, excuse-moi.
Mais comment est-ce que tout ce que tu dis, c'est très clair, mais je ne vois pas. Mais ce qui me manque, c'est comment ça se raccorde à l'histoire particulière de Pourim. Parce qu'à l'ennemi, tu aurais pu dire l'histoire de Pourim, elle a plutôt un statut de preuve.
Pourquoi ?
Voilà que les choses marchent. Voilà que les choses se sont... Tu pensais que tout était perdu. Et voilà que même si ce n'est pas une intervention... très manifeste, mais c'est quand même, voilà que...
Au contraire, c'est parce que s'il y avait eu une manifestation miraculeuse, il n'y aurait pas pu avoir pourri, parce que ça aurait été encore de l'ordre de l'extérieur, d'une transcendance extérieure qui interfère dans ma vie, qui est magnifique, mais alors qu'à pourri, ce qu'ils ont compris, c'est que Esther Panim, Dieu se cache, et c'est à partir d'une tchouva interne que ça apparaît. C'est à partir de nous-mêmes. À pourri, ils se sont redécouverts eux-mêmes, à pourri. Vous savez que dans les minags d'Israël, c'est Manitou qui disait ça, c'est rigolo. Il disait que dans les minags d'Israël, il y a beaucoup de sens. Vous savez qu'à Hanouka, on fait la toupie. La toupie, c'est un mouvement de haut vers le bas. C'est ce qui s'est passé à Hanouka. C'est Dieu qui intervient, du haut vers le bas. À Pourim, c'est la crécelle. On fait comme ça, et c'est un mouvement de bas vers le haut. C'est un mouvement de bas vers le haut. Tu fais comme ça, tu sais, à Pourim, tu fais comme ça. Et c'est exactement ça qui se passe à Pourim. C'est du bas vers le haut. C'est le bas qui va révéler le haut.
Le résultat. Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est quoi l'événement ? Quel est l'événement qui est venu d'en bas ?
La tchouva. Am Israël a fait toute tchouva. Ils ont jeûné pendant 3 jours.
Bah oui, c'est ça l'événement.
Bien sûr. À partir d'eux-mêmes, en redevenant eux-mêmes, il y a eu la Géoula. C'est pas que Dieu les a sortis d'Égypte par des miracles. En redevenant eux-mêmes. Donc, c'est pour ça aussi qu'à Pourim, il y a cette notion de don, cette notion du rapport à l'autre. C'est aussi fondamental. Alors, ça aussi, il faut bien comprendre. Il faut donner à Pourim de l'argent aux pauvres, il faut donner des cadeaux aux habits, il faut donner. Et la première mitzvah du don qu'on a dans la Torah, c'est dans le Mishkan. Or, il y a quelque chose de très étonnant, le Mishkan, il faut donner. Zdaka, chacun donne ce qu'il veut. Et on n'a jamais vu une mitzvah qui est comme ça, qui est dépendant du don, qui est dépendant du cœur, qui est dépendant du don. Dans le Mishkan, chacun donnait ce qu'il voulait. On n'a jamais vu une mitzvah qui dépend d'un don. La notion de don. Et il faut bien comprendre, quand on donnait de l'argent au Mishkan, ça ne pouvait se passer que comme ça. Ça ne pouvait être qu'un don. Parce que le don, dit une phrase magnifique, le Maharal, il dit le don, c'est ce qui crée l'espace. Le fait de donner crée des espaces, ouvre des espaces. C'est-à-dire que le Mishkan, qui est l'espace que Dieu va habiter, c'est Malchut, c'est Melech. Or, Malchut, un roi, par définition, il ne peut être que choisi. Comme ça dit le Maharal, très intéressant dans l'histoire politique, dans la philosophie politique, c'est que le Gra amène ce passage qui dit Melech Alamo ve Moshel Bagoim. Il est roi en Israël et il est Moshel. Moshel, c'est la notion de puissance coercitive, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas choisi. Alors que un Melech, le kavod du roi, c'est toujours d'être choisi. Au début, il est choisi un roi. Il doit être choisi par le peuple. La Malchut, c'est la notion d'être choisi. C'est pour ça que ça doit passer par le don. C'est pour ça que ça doit passer par le don. Or, à Purim, cette notion de don, notion de l'autre, c'est qu'on est obligé, pour arriver à ce tout ce dont on a parlé, pour exister, et ça c'est très compliqué à comprendre, c'est très fin, très difficile à saisir cette idée-là, mais on ne peut véritablement avoir cet espace où je vais renaître à moi-même que si je fais un don. Parce que c'est très étonnant, d'être capable véritablement de donner va ouvrir des espaces. Va ouvrir des espaces en nous-mêmes, va ouvrir des lieux insoupçonnés. Les gens croient qu'en donnant, ils perdent. En donnant, on gagne énormément, pas parce que justement on gagne des mitzvot et on gagne ce que vous voulez. On gagne des choses en nous. On parle ici effectivement d'un vrai geste de donner, d'un vrai geste désintéressé de don. Or, le vrai geste désintéressé de don, c'est le meilleur investissement, si vous préférez, en soi, puisque ça ouvre des espaces en nous insoupçonnés, des espèces de transcendance insoupçonnées. Et cet espace qui s'ouvre à partir du don est ce qui va permettre la renaissance de nous-mêmes. Et là on rentre dans quelque chose d'assez extraordinaire, assez incroyable. C'est que c'est de rapport. Dans Purim aussi, il y a toute cette notion de rapport. Amalek contre Israël, Mordechai, Aman. Rapport à l'autre. Rapport de matana, rapport d'amour, rapport de haine. Ce rapport à l'autre. Et étymologiquement, il y a quelque chose d'assez... Quand on y réfléchit un petit peu, c'est très 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 profond. C'est qu'en hébreu, Safa, la langue, la parole, ça a la même racine que Sfat, que la lisière, comme Sfat Begadim, ou Sfat Ayam, ou la lisière de la mer. Comme si, ou bien, Sfat Ayam, ou Sfat Abeget, ou Sfat Haim, les lèvres. Comme si la parole, avait à voir éminemment avec l'externe, la limite externe, la limite la plus externe qu'il soit. Or, le Midrash nous dit que chaque fois qu'il y a une safa, chaque fois qu'il y a une fin, il y a un ourlet. Comme ça, le Midrash dit quelque chose d'absolument incroyable. Il dit, à la fin d'un habit, vous avez un ourlet. À la fin, il dit aussi les lèvres. Les lèvres, c'est comme, elles se dédoublent, il y a un dédoublement. Il donne aussi l'exemple de la mer et de la terre. Il dit, quand la mer et la terre se rencontrent, la terre devient plus terre, rien ne pousse, le sable, ça devient complètement aride, ça devient, c'est une affirmation, et la mer devient plus mer. Il apporte un autre exemple, il dit une femme devient plus femme devant un homme devient plus homme devant une femme, etc., etc. Comme si la rencontre de deux opposés rendait plus chacun plus soi-même. Chacun plus soi-même. Comme si la rencontre de deux opposés faisait que chacun s'affirmait plus soi-même. La notion de Safa. Et là, le Maharal dit quelque chose d'absolument étourdissant, mais on ne pourra pas tout expliquer ce qu'il dit, mais il dit que tout l'enjeu de la parole est là. Tout l'enjeu de la relation à l'autre est là. C'est l'enjeu que moi je pourrais définir par le périphérique et le central. C'est-à-dire qu'il dit que la parole est éminemment double. Il dit que la parole aussi est double, comme la Safa, comme l'ourlet, c'est double, parce qu'elle est en même temps, toute parole de parole, elle est en même temps l'extrême le plus absolu, puisque c'est mon extrémité, la parole qui essaie de rejoindre l'autre, c'est déjà presque plus moi-même. Et comme elle est double, c'est en même temps ce qui me rend le plus central. Il donne aussi l'exemple du baiser. Il dit un baiser, deux baisers sur les lèvres, c'est en même temps, c'est deux extrémités qui s'unissent, et dans cet événement du baiser, chacun est unifié, chacun retrouve son unité. Sa centralité. Il y a donc quelque chose ici de paradoxal, de dialectique. dans la parole, dans le rapport. Et il dit le plus grand danger dans le rapport à l'autre et dans la parole, c'est de croire, ou bien de croire que la parole à l'autre va me faire perdre ma centralité et donc je me coupe de l'autre, ou bien d'être dans la superficialité du rapport à l'autre. Et donc ça te rend la parole, au lieu de la rendre deux, tu la rends une. Et que la parole, qui est double en essence, elle révèle le secret même du rapport à l'autre, que dans le rapport à l'autre s'opère ce double mouvement. Où c'est par l'expérience de l'extrémité la plus extrême, prendre le risque, si vous préférez, dans la parole, d'aller le plus loin dans la parole vers l'autre, que se produit, paradoxalement, une affirmation de l'identité la plus profonde, la plus centrale, la plus intime, la plus cachée de la personne. Comme cette notion de dourlé, comme cette affirmation, cette double affirmation qui fait que la personne naît. Or, à Pourim, c'est exactement ce qui se passe. À Pourim, c'est parce que Aman devient Amalek quand il rencontre Mordechai. Et Mordechai devient Moshe Rabbeinu quand il rencontre Aman. C'est cette rencontre qui crée Pourim. Amalek devient Amalek quand il est face à Israël. Et Israël devient Israël quand il est face à Amalek. C'est comme ça que ça surgit. C'est aussi d'ailleurs ce que disent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut boire. Encore une fois à Pourim. C'est parce que c'est la tchouva. On va devenir vraiment soi-même quand on. Il y a beaucoup de gens qui font tchouva comme ça. On devient vraiment soi-même quand on a été au plus loin de soi-même. Quand on a été le plus loin de soi-même, on dit ça ne peut pas être moi ça. Et on redevient soi-même. C'est quand on abandonne le plus loin, quand on se confronte à sa pire trahison, si vous préférez, qu'à ce moment-là, on peut redevenir soi-même. Et à la notion de Aman, que quand on dit que le Messiah reviendra, que ou bien on fait tchouva be'ahava, ou bien Dieu va m'amener Meler caché qui est Aman, quand on fera tchouva, c'est pas juste un Meler, on aura peur de lui. C'est que quand on voit, quand Am Israël va voir qu'il est tellement loin de lui-même, qu'il va dire ça peut pas être moi ça, et il va redevenir lui-même. Il y a cette notion à Pourim. C'est pour ça qu'Amalek est central dans Pourim. Parce que toute la notion, encore une fois, de Pourim, c'est de redevenir soi-même. Et il fallait qu'Amalek intervienne en Pourim pour que tu puisses redevenir toi-même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Amalek s'appelle Réchit Goïm. Quand il y a deux peuples qui s'appellent Réchit Goïm, c'est Am Israël et Amalek. C'est les deux peuples, il n'y en a pas d'autres. Ils s'appellent le premier des peuples. Et les deux s'appellent Réchit Goïm parce que, d'abord, parce qu'il faut que le mal soit aussi originel que le bien, pour qu'il y ait liberté. Il ne faut pas qu'à un moment donné, sinon le jeu serait tronqué. Il faut qu'Amalek soit aussi originel qu'Amalek, que Israël. Il faut que dans la pensée du mal, il y ait autant d'arguments que dans la pensée du bien, pour que le choix soit réel entre le bien et le mal. Sinon il n'y aurait pas de liberté. Donc c'est pour ça que les deux s'appellent Réchit Goïm. Les deux sont à l'origine même. Le mal est à l'origine. Le mal puise son origine presque aussi originellement que le bien. Il faut que les deux soient au même niveau d'originalité, d'originel plutôt. Oui, alors c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la Gemara nous dit qu'à Pourim, juste après Pourim, les Chachamim ont tué le désir, le Yatsera de la Vodazara, de l'idolâtrie. Et c'est très lié à Pourim. Et c'est très ce qu'on vient de dire maintenant. En quoi? Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le Yatser Hara pour la Avodah Zara. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du Yatser Hara? Tout le monde comprend ce que c'est Yatser Hara, du désir pour faire de l'idolâtrie. Première vue, ça ne veut rien dire. Le désir, c'est pour avoir des choses qui font plaisir. C'est du désir de manger, du désir sexuel, du désir ce que vous voulez. Mais où est-ce qu'on a vu la notion de désir de faire de la Avodah Zara? Or, le texte dit que c'est le plus grand désir. Il y a la Gemara, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la Gemara de Ravashi, où une fois. Ravashi a dit, à la fin de son shiur, « Demain, je vous parlerai de mes copains, de mes Chavraï, Ménaché, les rois d'Israël qui avaient fait de la Vodazara. » Et en rêve, Ménaché est venu voir Ravashi, et il a dit, « Tu nous appelles tes copains ?» Ravashi, c'est un immense Talmid Chacham. Mais il dit, « Toi, tu nous appelles, tu te permets de nous appeler tes copains ?» Et il lui dit, « Si toi, tu étais à notre époque, tu aurais pris, ils avaient des robes, les Rabbanim, tu aurais pris ta robe, tu aurais couru derrière moi, couru comme un enfant pour faire de l'idolâtrie. T'aurais couru comme un enfant pour faire de l'idolâtrie. Tellement le désir de l'idolâtrie était fort à notre époque. Nous, au moins, dit Menaché, on l'a fait avec Kavod. toi, tu aurais couru comme un enfant pour faire de l'idolâtrie. C'est ce que lui dit Menaché dans l'oreille. Et il a reçu, Rav Asher a reçu le moussard, puisque le lendemain, il a dit, on va parler des Gdolaï, on va parler des grands. Il n'a pas dit, on va parler de mes amis, il a dit, on va parler des grands. Donc à première vue, on voit qu'ici, d'après cette Gemara, que le désir de faire de l'idolâtrie est immense. Et si nous, on a plus de désir, c'est parce qu'on est petit. Pas parce qu'on est grand, c'est parce qu'on est petit. Or, quel est ce désir? En quoi c'est chayard de parler de désir dans la Avodah Zara? À première vue, le Yatser Hara, c'est le Yatser du plaisir. Le Yatser de la faute jouissive. Ça n'a aucun rapport avec la Avodah Zara. En quoi il y a un Yatser Hara d'aller s'agenouiller devant une statue? Alors, il faut dire la chose comme ça. C'est qu'en vérité, le plus grand Yatser Hara, effectivement, c'est de donner à son être, à son kioum, donner à sa vie, une dimension divine. Une dimension divine. Au plus profond, tout Avodah Zara, toute idolâtrie, en vérité, le bonhomme, il fait l'Avodah Zara de soi-même. Il se travaille lui-même, comme on dit travail, il s'honore lui-même. Il donne à sa vie un statut ontologique divin absolu. Absolu. Et cette Yatser Hara était immense quand il existait, quand il était, si vous préférez, pas sociologiquement, mais qui était culturellement, qui était dans l'espace référentiel du monde. Ça a été détruit par les Rabbanim. Mais c'était immense. Parce que la Avodah Zara, c'est ce qui donnait à ta vie une dimension absolument divine, absolument un kioum, etan. Ça donnait un établissement à ton être absolument énorme. Et c'était ça l'immense Yatser Hara. Et il faut bien comprendre que les choses sont très fines. Amalek est le premier peuple qui crée la notion que quelqu'un se prend pour Dieu. Avec Nimrod, Esav, ça vient de Esav, d'Amalek. Il se prend pour Dieu, ça vient de Amalek, se croire de se prendre pour Dieu. Et ça vient de ça, il faut bien comprendre. Amalek vient de Esav. Esav vient de Yitzhak. Yitzhak, c'est la Midat Adin. Midat Adin, c'est la loi. Or les deux, la stricte justice. Or les deux, que ce soit Esav ou Amalek, vont dire pratiquement la même chose. Et la différence est infime et pourtant énorme. Yitzhak, il dit, je n'ai que ce que je mérite. Or, je ne mérite rien, donc je n'ai rien. Et c'est Yitzhak qui s'est fait cendre. On dit que Yitzhak s'est fait cendre. On dit que la cendre d'Yitzhak est mounach, est devant Dieu. C'est-à-dire que c'est Yitzhak, c'est celui qui a tout brûlé. Tout brûlé, il est seul dans le vide face à Dieu. C'est l'expérience de l'absolue nudité, du dépouillement absolu. L'expérience absolument fascinante, mais qui pour nous nous paraît incroyablement difficile de dire je ne suis rien, je n'ai le droit à rien, je suis seul face à Dieu. C'est pour ça qu'Israël, c'est la Midat Adin, c'est Mincha, c'est la fin du jour. Amalek, Esav, qu'est-ce qu'il dit lui? Pratiquement quelque chose d'identique. Je n'ai que ce que je mérite, c'est le même début qu'Israël. Or j'ai des choses, donc je les mérite. Et donc là, il s'avère de rien, mais c'est toute la civilisation occidentale qui est comme ça. Ça veut dire qu'on est dans un raisonnement où je vais. Ah, c'est l'honneur, c'est le droit sacré à la nation, par exemple. Le droit sacré du sol, la patrie, le nationalisme. Tous ces concepts, plus que des concepts, tous ces systèmes de concepts, elles viennent de ce réchit, elles viennent de ça. Le droit absolu à être. Et c'est pour ça que la Gemara, le Chumash, dit Becher Becha Tichye, tu vivras avec ton épée. Parce que quelqu'un qui vit comme ça, tu vivras avec ton épée. Parce qu'on entend les mots. Les mots, ça veut dire que le principe même de la vie des savants, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que je suis le Mechouyav Amitziyut, je suis l'absolue nécessité, puisque je suis Midat Adin et que j'ai, donc j'existe, donc tout celui qui est contre moi n'a pas le droit de vivre. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un vienne contre un savant? Quelqu'un contre un savant, il doit être éliminé. Ou c'est mon esclave, ou il doit mourir. Parce que c'est pas cher. C'est pas cher que moi j'existe et que quelqu'un d'autre contre moi existe. Puisqu'il prend à son, il intègre, il instrumentalise cette notion de din, cette notion de midat adin. C'est pour ça qu'Esav vit par le meurtre. Et Amalek, qui est la quintessence d'Esav, il faut bien comprendre qu'Amalek, c'est la quintessence d'Esav, qui est le contraire d'Israël, qui est l'opposé d'Israël. Et Amalek, c'est celui qui incarne ça. Et donc Amalek, on dit qu'il est l'okek, le dame d'Israël, qui est Kelev. Qu'il est loquet, qu'il lèche le sang d'Israël comme un chien. C'est le Midrash qui dit ça. Or, c'est très intéressant, cette notion d'être lokek, le sang d'Israël, comme un chien. D'abord, pourquoi comme un chien? Et qu'est-ce que c'est que cette lokek? Lokek, le sang d'Israël. Alors, les commentateurs disent la chose suivante. Ils disent la chose comme ça. Ils disent, Adam, le mot Adam, en hébreu, c'est une composition de Dam, qui est le sang, et de Aleph, qui est le principe spirituel. L'homme est celui qui donne au Dam. Dam, c'est la partie basse. Le sang, c'est la partie basse de l'homme. C'est qui donne, qui élève, si vous préférez, la partie basse. Or, Amalek, quand on dit qu'il est comme un Kelev, le Kelev, la Gemara le met toujours contre le Meler. Meler, c'est toujours Moar, esprit, Lev, le cœur, Chav, Kavet, c'est-à-dire qu'il a les trois dimensions. Je crois que la Gemara veut mettre en opposition, par exemple, la Gemara, elle donne un exemple, elle dit que quand on veut se moquer d'une Avodazara, s'il s'appelle Even Ameler, tu dois te moquer, il y a une mitzvah de se moquer d'Avodazara, tu vas dire Even Akelev. La Gemara amène plein, il y a plein de cas comme ça. Quelqu'un qui dit, est-ce que je suis un chien pour prendre sans donner, je suis un roi qui donne sans prendre. Il y a énormément de Gemara comme ça. Il y a une opposition entre la malchoute et le chien. Or, il y a quelque chose de très particulier chez le chien, c'est que le chien essaie de prendre la place, essaie de fraterniser avec l'homme, dans la bassesse. Il essaie de s'insérer dans la famille comme un élément de la famille. C'est ça qui est insupportable pour l'esprit torah. C'est pour ça que le chien est très très mal vu dans la Gemara. C'est parce qu'il incarne cette possibilité du non-kavod de respecter le non-kavod, de respecter l'irrespectueux, de prendre sa place au sein de l'humanité comme une sous-humanité. Or, c'est ce que fait Amalek. Comme un chien. Il veut toujours rabaisser les choses. Or, la fin des temps qui est le temps du Hiloul absolu, Amalek n'a pas de takana. Il n'y a pas de tikkun, c'est le seul. Parce qu'en essence, il est anti-Hiloul. En essence, il est anti-Hiloul. Or, c'est ça qui s'est passé à Purim. C'est que, à Purim, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est que les deux, c'est que nous, et c'est pour ça que le Yatsara de la Vodazara est mort. Parce qu'à Purim, on a nous, peuple juif, expérimenté l'extraordinaire possibilité de vivre, comme on l'a dit, d'être celui qui dit la gloire de Dieu sur terre. Or, le peuple lui dit, comme grand est Dieu qui me donne la possibilité de le glorifier. Le Baal Avodah Zarah va dire, comme je suis grand, qui donne sens à Dieu. Comme on avait vu une fois que une Elohut, une divinité qui n'a pas quelqu'un pour le service, n'existe pas. S'il n'y a pas de fidèle à une Elohut, elle n'existe pas. Kebiechol, on pourrait presque dire la même chose de Dieu. S'il n'y a personne pour servir Dieu sur terre, Dieu n'existe pas. Or, le Baal Avodah Zarah, il dit donc Dieu dépend de moi, c'est Nimrod, c'est Esav. Donc Dieu dépend de moi, puisque c'est moi qui donne sens à Dieu sur terre. Am Israël dit exactement le contraire. Devant cet extra, comme il y a une phrase que j'ai lue quelque part, qui dit il faut une immense humilité pour supporter une telle gloire. C'est-à-dire une telle gloire d'être celui qui dit, qui donne sens, qui Dieu nous a fait grâce de pouvoir dire sur terre la grandeur de Dieu. Or, face à ça, et ça peut être un immense orgueil, comme au contraire une immense humilité. Or, c'est ça qui s'est passé à Purim. À Purim, on a compris que l'essence même de mon être était infinie, presque, et donc il n'y avait plus de place pour le Yatsara de l'Avodah Zarah. Puis que cet Yatsara de l'Avodah Zarah était retourné. On le vivait de façon positive, si vous préférez. On a vécu ça de façon positive, on n'a plus besoin de faire de l'Avodah Zarah pour éprouver l'envergure divine de mon existence, puisque je peux prouver cette envergure divine de mon existence dans l'humilité extrême de glorifier Dieu. Et c'est ce retournement. Et pour finir, c'est pour ça aussi que Purim, toute cette notion de retournement, parce que tout ça ne passe que par retournement, l'évidence du monde, le monde comme il va. Chashverosh, c'est l'image du monde, de l'être qui va comme il va. Des choses qui ne. Quand le monde, la vie qui va comme elle va, une vie qui n'est pas. On ne fait pas l'effort de la renverser. Or, Purim, c'est Adar. Le mois d'Adar en hébreu, c'est Adaraba. C'est le renversement. Donc il faut être capable, c'est ça la grande chose qu'on appelle à Purim, c'est cette notion de rire. Vous savez que toute blague, tout rire, vient d'une notion de renversement. Toute bonne blague, c'est qu'on raconte une histoire qui a l'impression d'aller dans ce sens-là, et tout d'un coup, pouf, elle se renverse. Et ça fait rire. Pourquoi c'est rigolo? On pensait que ça allait faire comme ça, et hop, on dit à la fin, hop, c'est passé exactement quoi, et tout le monde explose de rire. Pourquoi ça fait rire? Parce que justement, l'expérience de la blague au niveau existentiel reflète l'espérance messianique, l'espérance eschatologique. Parce que la vie, le monde, elle est aussi déconstituée comme ça. Que le monde va dans un sens, on a l'impression qu'il va dans un sens, où le Messie ne viendra pas. On a l'impression que le monde va comme ça. Et tout d'un coup, schlac, tout va se renverser. Tout ce qui allait important ici, l'argent, l'État, le pouvoir, la guerre, tout ça, ça se renverse. Ça va se renverser, ça n'aura plus aucune importance. Et c'est ce renversement eschatologique, ce renversement messianique qui est inscrit dans la création même du monde, qui est vérifié à un tout petit niveau, au niveau de la blague individuelle qu'on va faire entre nous, où on va épouser la même forme d'un mouvement qui se renverse à la fin. Et à Purim, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est pour ça que c'est une fête éminemment messianique. À Purim, tout allait vers la destruction du peuple juif, et tout d'un coup, tout s'est renversé. C'est ce renversement qu'on doit nous essayer d'expérimenter à Purim, par le fait même qu'il y a énormément d'énervements et de forces et d'attractions dans notre vie, des forces qui nous poussent vers la mort, qui nous pousse vers le néant, qui nous pousse vers la résignation, qui nous pousse vers la petitesse. Et à Purim, il faut être capable de renverser tout ça. Parce que le mouvement n'est pas inexorable. C'est ça que Purim nous apprend. Que le mouvement n'est pas inexorable, il est toujours dépendant d'un sauvetage messianique. Et ça, ça peut être vécu même au niveau individuel. On peut avoir la salvation par nous-mêmes, en nous-mêmes. Il n'y a rien, aucune force extérieure qui peut nous assujettir, parce que si on redevient tout petit peu nous-mêmes, toutes ces forces négatives, elles se renversent. Elles deviennent des serviteuses, des servantes de celui qui redevient un peu lui-même. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pourri, ben, tout est permis.
On va voir. Hein.
Voilà. Kol Tov. On n'est pas au spectacle, on a essayé de faire un événement de... C'est, on a